Chapitre 18, dans lequel le roi Loc accomplit un terrible voyage. Au sortir du puits de la science, le roi Loc s'en alla à son trésor, prit un anneau dans un coffre dont il avait seul la clé, et se le mit au doigt. Le chaton de cet anneau jetait une vive lumière, car il était fait d'une pierre magique dont on connaîtra la vertu par la suite de ce récit. Le roi Loc se rendit ensuite dans son palais, où il revêtit un manteau de voyage, chaussa de fortes bottes et prit un bâton. Puis il se mit en route à travers les rues populeuses, les grands chemins, les villages, les galeries de porphyre, les nappes de pétrole et les grottes de cristal qui communiquaient entre elles par d'étroites ouvertures. Il semblait songeur et prononçait des paroles qui n'avaient pas de sens. Mais il marchait obstinément. Des montagnes lui barraient le chemin, et il gravissait les montagnes. Des précipices s'ouvraient sous ses pieds, et il descendait les précipices. Il passait les gués, il traversait des régions affreuses, qu'obscurcissaient des vapeurs de soufre. Il cheminait sur des laves brûlantes, où ses pieds laissaient leur empreinte. Il avait l'air d'un voyageur extrêmement têtu. Il s'engagea dans des cavernes sombres où l'eau de la mer, filtrant goutte à goutte, coulait comme des larmes le long des algues et formait sur le sol inégal des lagunes où d'innombrables crustacés croissaient monstrueusement. Des crabes énormes, des langoustes et des homards géants, des araignées de mer craquaient sous les pieds du nain, puis s'en allaient en abandonnant quelqu'une de leurs pattes et réveillaient dans leur fuite les limules hideux, les poulpes séculaires, qui sous l'un agitaient leurs 100 bras et crachaient de leur bec d'oiseau un poison fétide. Le roi Loc avançait pourtant. Il parvint jusqu'au fond de ses cavernes, dans un entassement de carapaces armées de pointes, de pinces à double scie, de pattes qui lui grimpaient jusqu'au cou, et d'yeux mornes dardés au bout de longues branches. Il gravit le flanc de la caverne en s'accrochant aux aspérités du roc, et les monstres cuirassés montaient avec lui, et il ne s'arrêta qu'après avoir reconnu au toucher une pierre qui faisait saillie au milieu de la voûte naturelle. Il toucha de son anneau magique cette pierre, qui s'écroula tout à coup avec un horrible fracas, et aussitôt un flot de lumière répandit ses belles ondes dans la caverne et mit en fuite les bêtes nourries dans les ténèbres. Le roi Loc, passant sa tête par l'ouverture d'où venait le jour, vit Georges Blanchelande qui se lamentait dans sa prison de verre en songeant à abeilles et à la terre. Car le roi Loc avait accompli son voyage souterrain pour délivrer le captif des ondines. Mais voyant cette grosse tête chevelue, sourcilleuse et barbue, le regarder du fond de l'entonnoir de cristal, Georges crut qu'un grand danger le menaçait, et il chercha à son côté son épée, ne songeant plus qu'il l'avait brisée sur la poitrine de la femme aux yeux verts. Cependant, le roi Loc le considérait avec curiosité. « Pouh ! » se dit-il, « ce n'est qu'un enfant !» C'était en effet un enfant très simple, et il devait à sa grande simplicité d'avoir échappé aux baisers délicieux et mortels de la reine des ondines. Aristote, avec toute sa science, ne s'en serait pas tiré si aisément. Georges, se voyant sans défense, dit « Que me veux-tu, grosse tête? Pourquoi me faire du mal si je t'en ai jamais fait ?» Le roi Loc répondit d'un ton à la fois jovial et bourru « Mon mignon, vous ne savez pas si vous m'avez fait du mal ?» car vous ignorez les effets et les causes, les actions réflexes et généralement toute la philosophie. Mais ne parlons point de cela. Si vous ne répugniez pas à sortir de votre entonnoir, venez par ici. » Georges se coula aussitôt dans la caverne, glissa le long de la paroi, et sitôt qu'il fut en bas, « Vous êtes un brave petit homme, » dit-il à son libérateur, « je vous aimerai toute ma vie. » « Savez-vous, abeille des Clarides ?»« Je sais bien des choses, » répondit le nain, « et notamment que je n'aime pas les questionneurs. » Georges, en entendant ces paroles, resta tout confus, et il suivit en silence son guide dans l'air épais et noir où s'agitaient les poulpes et les crustacés. Alors le roi Locke lui dit en ricanant, « La route n'est pas carrossable, mon jeune prince. » « Monsieur, lui répondit Georges, le chemin de la liberté est toujours beau, et je ne crains pas de m'égarer en suivant mon bienfaiteur. » Le petit roi Locke se mordit les lèvres. Parvenu aux galeries de Porphyre, il montra au jeune homme un escalier pratiqué dans le roc par les nains pour monter sur la terre. « Voici votre chemin, lui dit-il, adieu. » « Oh, ne me dites pas adieu, répondit Georges, dites-moi que je vous reverrai. Ma vie est à vous après ce que vous avez fait pour moi. » Le roi Locke répondit, « Ce que j'ai fait n'était pas pour vous, mais pour une autre. Il vaut mieux ne pas nous revoir, car nous ne pourrions pas nous aimer. » Georges reprit avec un air simple et grave, « Je n'avais pas cru que ma délivrance me causerait une peine, et pourtant cela est. Adieu, monsieur. »« Bon voyage !» cria le roi Locke d'une voix rude. Or, l'escalier des nains aboutissait à une carrière abandonnée qui était située à moins d'une lieue du château des Clarides. Le roi Locke poursuivit son chemin en murmurant, « Ce jeune garçon n'a ni la science ni la richesse des nains. Je ne sais vraiment pas pourquoi il est aimé d'abeille, à moins que ce ne soit, parce qu'il est jeune, beau, fidèle et brave. » Il rentra dans la ville en riant dans sa barbe, comme un homme qui a joué un bon tour à quelqu'un. En passant devant la maison d'abeille, il coula sa grosse tête par la fenêtre, comme il avait fait dans l'entonnoir de verre, et il vit la jeune fille qui brodait des fleurs d'argent sur un voile. « Soyez en joie, abeille, lui dit-il. Et toi, répondit-elle, petit roi Locke, puisses-tu n'avoir jamais rien à désirer ou du moins rien à regretter ? » Il avait bien quelque chose à désirer, mais vraiment, il n'avait rien à regretter. Cette pensée le fit souper de bon appétit. Après avoir mangé un grand nombre de faisans truffés, il appela Bob. « Bob, lui dit-il, monte sur ton corbeau, va trouver la princesse des nains et dis-lui que Georges de Blanchelande, qui fut longtemps prisonnier des Ondines, est aujourd'hui de retour aux Clarides. » Il dit, et Bob s'envola sur son corbeau. Chapitre 19 qui traite de la merveilleuse rencontre que fit Jean, le maître tailleur, et de la bonne chanson que les oiseaux du bocage chantèrent à la duchesse. Quand Georges se retrouva sur la terre où il était né, la première personne qu'il rencontra fut Jean, le vieux maître tailleur, portant sur son bras un habit rouge au majordome du château. Le bonhomme poussa un grand cri à la vue du jeune seigneur. « Saint-Jacques, dit-il, si vous n'êtes pas monseigneur Georges de Blanchelande, qui s'est noyé dans le lac voilà 7 ans, vous êtes son âme ou le diable en personne ?»« Je ne suis ni âme ni diable, mon bon Jean, mais bien ce Georges de Blanchelande, qui se glissait autrefois dans votre échoppe et vous demandait de petits morceaux de drap pour faire des robes aux poupées de ma sœur abeille. » Mais le bonhomme se récriait. « Mais vous n'avez donc pas été noyé, monseigneur ? Oh, j'en suis aise. Vous avez tout à fait bonne mine. Mon petit-fils Pierre, qui grimpait dans mes bras pour vous voir passer le dimanche matin à cheval aux côtés de la duchesse, est devenu un bon ouvrier, un beau garçon. Il est, Dieu merci, tel que je vous le dis, monseigneur. Oh, il sera content de savoir que vous n'êtes pas au fond de l'eau, et que les poissons ne vous ont point mangé, comme il le croyait. Il a coutume de dire à ce sujet les choses les plus plaisantes du monde, car il est plein d'esprit, monseigneur. Et c'est un fait qu'on vous regrette dans toutes les Clarides. Votre enfance était pleine de promesses. Oh, il me souviendra jusqu'à mon dernier soupir qu'un jour vous me demandâtes mon aiguille à coudre, et comme je vous la refusais parce que vous n'étiez pas d'âge à la manier sans danger, Vous me répondîtes que vous iriez au bois, cueillir les belles aiguilles vertes des sapins. Vous dites cela, et j'en ris encore. Oh, sur mon âme, vous dites cela. Oh, notre petit Pierre trouvait aussi d'excellentes réparties. Il est aujourd'hui tonnelier à votre service, monseigneur. Je n'en veux pas d'autre que lui, mais donnez-moi, maître Jean, des nouvelles d'Abeille et de la duchesse. Hélas, d'où venez-vous, monseigneur, si vous ne savez pas que la princesse Abeille fut enlevée il y a 7 ans par les nains de la montagne? Elle disparut le jour même où vous fûtes noyé, et l'on peut dire que ce jour-là, les Clarides perdirent leurs 2 plus douces fleurs. La duchesse emmena un grand deuil. C'est ce qui me fait dire que les puissants de ce monde ont aussi leur peine comme les plus humbles artisans, et qu'on connaît à ce signe que nous sommes tous fils d'Adam. En conséquence de quoi, un chien peut bien regarder un évêque, comme on dit. À telles enseignes que la bonne duchesse en vit blanchir ses cheveux et perdit toute gaieté. Et quand, au printemps, elle se promène en robe noire sous la charmille où chantent les oiseaux, le plus petit de ces oiseaux est plus digne d'envie que la souveraine des Clarides. Toutefois, sa peine n'est pas sans un peu d'espoir, monseigneur, car si elle n'a point de nouvelles de vous, elle sait du moins par des songes que sa fille Abeille est vivante. Le bonhomme Jean disait ces choses et d'autres encore, mais Georges ne l'écoutait plus depuis qu'il savait qu'Abeille était prisonnière des nains. Il songeait, « Les nains retiennent Abeille sous la terre. Un nain m'a tiré de ma prison de cristal. Ces petits hommes n'ont pas tous les mêmes mœurs. Mon libérateur n'est certainement pas de la race de ceux qui enlèvent vers ma sœur. » Il ne savait que penser, sinon qu'il fallait délivrer Abeille. Cependant, il traversait la ville, et sur leur passage, les commères qui se tenaient sur le seuil de leur porte se demandaient entre elles qui était ce jeune étranger, et elles convenaient qu'il avait bonne mine. Les plus avisées, ayant reconnu le seigneur de Blanchelande, crurent voir un revenant et s'enfuirent en faisant de grands signes de croix. « Il faudrait, dit une vieille, lui jeter de l'eau bénite et il s'évanouirait en répandant une dégoûtante odeur de soufre. Il emmène maître Jean, le tailleur, et il le plongera sans faute tout vif dans les flammes de l'enfer. »« Tout doux la vieille, répondit un bourgeois, le jeune seigneur est aussi vivant et plus vivant que vous et moi. Il est frais comme une rose et il semble venir de quelque cour galante plutôt que de l'autre monde. » « On revient de loin, bonne dame, témoin l'écuyer Francoeur, qui nous arriva de Rome à la Saint-Jean passée. » Et Marguerite de la Haumière, ayant admiré Georges, monta dans sa chambre de jeune fille, et là, s'agenouillant devant l'image de la Sainte Vierge, « Sainte Vierge, dit-elle, faites que j'ai un mari, tout semblable à ce jeune seigneur. » Chacun parlait à sa façon du retour de Georges, tant et si bien que la nouvelle envola de bouche en bouche jusqu'aux oreilles de la duchesse qui se promenait alors dans le verger. Son cœur battit bien fort et elle entendit tous les oiseaux de la charmille chanter « Cui, 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 oui, 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 Georges de Blanchelande, cui, 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 dont vous avez nourri l'enfance, « Cui, 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 est ici, est ici, est ici, oui, oui, oui. » Francoeur s'approcha respectueusement d'elle et lui dit, « Madame la Duchesse, Georges Blanchelande, que vous avez cru mort et de retour, j'en ferai une chanson. » Cependant les oiseaux chantaient, « Cui, 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 oui, 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 cui, il est ici, si, 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 si. » Et quand elle vit venir l'enfant qu'elle avait élevé comme un fils, elle ouvrit les bras et tomba pâmée. Chapitre 20, qui traite d'un petit soulier de satin. On ne doutait guère aux Clarides qu'Abeille eût été enlevée par les nains. C'était aussi la croyance de la duchesse, mais ses songes ne l'instruisaient pas précisément. Nous la retrouverons, disait Georges. Nous la retrouverons, répondait Francoeur. Et nous la ramènerons à sa mère, disait Georges. Et nous l'y ramènerons, répondait Francoeur. Et nous l'épouserons, disait Georges. Et nous l'épouserons, répondait Francoeur. Et ils s'enquéraient auprès des habitants des mœurs des nains et des circonstances mystérieuses de l'enlèvement d'abeilles. C'est ainsi qu'ils interrogèrent la nourrice Maurille, qui avait nourri de son lait la duchesse des Clarides. Mais maintenant Maurille n'avait plus de lait pour les petits-enfants, et elle nourrissait les poules dans sa basse-cour. C'est là que le maître et l'écuyer la trouvèrent. Elle criait « Psit, 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 petit, 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 psit, psit, psit » et elle jetait du grain à ses poussins. « Psit, 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 petit, 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 c'est vous, monseigneur, psit, 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 est-il possible que vous soyez devenu si grand, psit, et si beau, psit, 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 chut, chut. Voyez-vous ce gars-là qui mange toute la pitance des petits, chut, chut, oh, c'est l'image du monde, monseigneur. » Tout le bien va aux riches, les maigres maigrissent, tandis que les gras engraissent. Vers la justice des points de la terre. Qu'y a-t-il pour votre service, monseigneur? Vous accepterez bien chacun un verre de cervoise. Nous l'accepterons, Maurille, et je vous embrasserai parce que vous avez nourri de votre lait la mère de celle que j'aime le plus au monde. Mais c'est la vérité, monseigneur. Mon nourrisseau eut sa première dent à 6 mois et 14 jours. Et à cette occasion, la défunte duchesse me fit un présent, c'est la vérité. Eh bien, dites-nous, Maurille, ce que vous savez des nains qui ont enlevé l'abeille. Mais hélas, monseigneur, je ne sais rien des nains qui l'ont enlevé. Et comment voulez-vous qu'une vieille femme comme moi sache quelque chose? Il y a beau temps que j'ai oublié le peu que j'avais appris. J'ai même pas assez de mémoire pour me rappeler où j'ai pu fourrer mes lunettes. Il m'arrive de les chercher quand je les ai sur le nez. Allez, goûtez cette boisson, elle est fraîche. À votre santé, Maurille, mais on compte que votre mari connut quelque chose de l'enlèvement d'abeilles. Ah oui, c'est la vérité, monseigneur. Bien qu'il n'eût pas reçu l'instruction, il savait beaucoup de choses qu'il apprenait dans les auberges et les cabarets. Il n'oubliait rien. S'il était encore de ce monde et assis avec nous devant cette table, il vous conterait des histoires jusqu'à demain. Mais il m'en a dit tant et tant de toutes sortes qu'elles ont fait une fricassée dans ma tête que je serais pu à cette heure distinguer la queue de l'une de la tête de l'autre. C'est la vérité, monseigneur. Oui, c'était la vérité, et la tête de la nourrice pouvait se comparer à une vieille marmite fêlée. Georges et Francoeur eurent toutes les peines du monde à en tirer quelque chose de bon. Toutefois, ils en firent sortir à force de la retourner un récit qui commença de la sorte. Il y a 7 ans, monseigneur, le jour même où vous fîtes avec abeille l'escapade dont vous ne revâtez ni l'un ni l'autre, mon défunt mari alla dans la montagne vendre un cheval. C'est la vérité. Il donna à la bête un bon picotin d'avoine mouillé dans du cidre afin qu'elle eût le jarret ferme et l'œil brillant. Il l'amena au marché proche de la montagne. Il n'eut pas à regretter son avoine et son cidre car le cheval en fut vendu plus cher. Il en est des bêtes comme des hommes, on les estime sur l'apparence. Mon défunt mari se réjouissait de la bonne affaire qu'il venait de conclure. Il offrit à boire à ses amis, s'engageant à leur faire raison, le verre à la main. Or, sachez, monseigneur, qu'il n'y avait pas un seul homme dans toutes les Clarides qui valût mon défunt mari pour faire raison aux amis, le verre à la main. Si bien que ce jour-là, après avoir fait nombre de politesses, il s'en revint seul à la brune et prit un mauvais chemin, faute d'avoir connu le bon. Se trouvant proche d'une caverne, il aperçut aussi distinctement qu'il était possible dans son état et à cette heure une troupe de petits hommes portant sur un brancard une fille ou un garçon. Il s'enfuit de peur de ma rencontre, car le vin ne lui ôtait pas la prudence, mais à quelque distance de la caverne, ayant laissé choir sa pipe, Il se baissa pour la ramasser et il saisit à la place un petit soulier de satin. Il fit à ce sujet une remarque qu'il se plaisait à répéter quand il était de bonne humeur. « C'est la première fois, se dit-il, qu'une pipe se change en soulier. » Or, comme ce soulier était un soulier de petite fille, il pensa que celle qu'il avait perdue dans la forêt avait été enlevée par les nains et que c'était son enlèvement qu'il avait vu. Il allait mettre le soulier dans sa poche quand des petits hommes couverts de capuchons se jetèrent sur lui et lui donnèrent des soufflets en si grand nombre qu'il resta tout étourdi sur la place. « Maurice, Maurice !» s'écria Georges, « mais c'est le soulier d'abeille. Donnez-le-moi, que j'y mette 1000 baisers. Il restera tous les jours sur mon cœur dans un sachet parfumé, et quand je mourrai, on le mettra dans mon cercueil. » « À votre gré, monseigneur, mais où l'irez-vous chercher ?» Les nains l'avaient repris à mon pauvre mari, et il pensa même qu'il avait été si consciencieusement souffleté que pour l'avoir voulu mettre dans sa poche et montrer au magistrat. Il avait coutume de dire à ce sujet, quand il était de bonne humeur, « Assez, non, non, assez, assez, dites-moi seulement le nom de la caverne. » « Monseigneur, on la nomme la caverne des nains, elle est bien nommée. Mon défunt mari, Marie, plus un mot, mais toi, Francoeur, sais-tu où est cette caverne ?»« Monseigneur, répondit Francoeur en achevant de vider le pot de cervoise, vous n'en douteriez pas si vous connaissiez mieux mes chansons. J'en ai fait une douzaine sur cette caverne et je l'ai décrite sans oublier seulement un brin de mousse. » J'ose dire, monseigneur, que sur ces 12 chansons, 6 ont vraiment du mérite, mais les 6 autres ne sont pas non plus à dédaigner. Je vais vous en chanter 1 ou 2. Francoeur, s'écria Georges, nous nous emparerons de la caverne des nains et nous délivrerons Abeille. Rien n'est plus certain, répondit Francoeur. Chapitre 21, où l'on raconte une périlleuse aventure. Dès la nuit, quand tout fut endormi dans le manoir, Georges et Francoeur se glissèrent dans la salle basse pour y chercher des armes. Là, sous les solives enfumées, lance, épée, dague, espadon, couteau de chasse, poignard brillaient. Tout ce qu'il faut pour tuer l'homme et le loup. Sous chaque poutre, une armure complète se tenait debout, dans une si ferme et si fière attitude qu'elle semblait encore remplie de l'âme du brave homme qu'il avait revêtu jadis pour de grandes aventures. Et le gantelet pressait la lance entre 10 doigts de fer, tandis que l'écu reposait sur les tassettes de la cuisse, comme pour enseigner que la prudence est nécessaire au courage et que l'excellent homme de guerre est armé pour la défense aussi bien que pour l'attaque. Georges choisit entre tant d'armures celle que le père d'Abeille avait portée jusque dans les îles d'Avalon et de Thulé. Il la ceignit avec l'aide de Francoeur et il n'oublia pas l'écu sur lequel était peint au naturel le soleil d'or des Clarides. Francoeur revêtit à son tour la bonne vieille cotte d'acier de son grand-père et se coiffa d'un bassinet hors d'usage, auquel il ajouta une espèce de plumaille ou plumeau miteux et dépenaillé. Il fit ce choix par fantaisie et pour avoir l'air réjouissant, car il estimait que la gaieté est bonne en toute rencontre et particulièrement utile là où il y a de grands dangers à courir. S'étant ainsi armés, ils s'en allèrent sous la lune dans la campagne noire. Francoeur avait attaché les chevaux à l'orée d'un petit bois, proche de la poterne, où ils les trouvèrent, qui mordaient l'écorce des arbustes. Ces chevaux étaient très vites, et il leur fallut moins d'une heure pour atteindre, au milieu de follets et d'apparitions confuses, la montagne des nains. « Voici la grotte !» dit Francoeur. Le maître et l'écuyer mirent pied à terre, et s'engagèrent, l'épée à la main, dans la caverne. Il fallait un grand courage pour tenter une pareille aventure. Mais Georges était amoureux, et Francœur était fidèle. Et c'était le cas de dire avec le plus délicieux des poètes que ne peut l'amitié conduite par l'amour. Le maître et l'écuyer marchèrent dans les ténèbres pendant près d'une heure, après quoi ils virent une grande lumière dont ils furent étonnés. C'était un de ces météores dont nous savons que le royaume des nains est éclairé. À la lueur de cette clarté souterraine, ils virent qu'ils étaient au pied d'un antique château. « Voilà, dit Georges, le château dont il faut nous emparer. »« Effectivement, répondit Grandcœur, mais souffrez que je boive quelques gouttes de ce vin que j'ai emporté comme une arme, car tant vaut le vin, tant vaut l'homme, et tant vaut l'homme, tant vaut la lance, et tant vaut la lance, tant vaut moins l'ennemi. » Georges, le voyant âme qui vive, heurta rudement du pommeau de son épée la porte du château. Une petite voix chevrotante lui fit lever la tête, et il aperçut à l'une des fenêtres un très petit vieillard à longue barbe qui demanda « Qui êtes-vous, Georges de Blanchelande? Et que voulez-vous ?»« Reprendre abeille des clarides que vous retenez injustement dans votre taupinière, vilaine taupe que vous êtes !» Le nain disparut, et de nouveau Georges se trouva seul avec Francœur qui lui dit « Monseigneur, je ne sais si j'exagère en déclarant que dans votre réponse au nain, vous n'avez peut-être pas épuisé toutes les séductions de l'éloquence la plus persuasive. » Francœur n'avait peur de rien, mais il était vieux. Son cœur était, comme son crâne, poli par l'âge, et il n'aimait pas qu'on fâchât les gens. Georges, au contraire, se démenait et poussait de grands cris. « Vils habitants de la terre, taux, blaireaux, loirs, furets et radeaux, ouvrez seulement cette porte, je vous couperai les oreilles à tous. » Mais à peine avait-il parlé de la sorte que la porte de bronze du château s'ouvrit lentement d'elle-même, sans qu'on pût voir qui en poussait les énormes battants. Georges eut peur, et pourtant il franchit cette porte mystérieuse parce que son courage était encore plus grand que sa peur. Entré dans la cour, il vit à toutes les fenêtres, dans toutes les galeries, sur tous les toits, sur tous les pignons, dans la lanterne et jusque sur les tuyaux de cheminée, des nains armés d'arcs et d'arbalètes. Il entendit la porte de bronze se refermer sur lui, et une grêle de flèches commença à tomber dru sur sa tête et sur ses épaules. Pour la seconde fois, il eut grand-peur, et pour la seconde fois, il surmonta sa peur. L'écu au bras, l'épée au poing, il monte les degrés, quand tout à coup, il aperçoit, debout sur la plus haute marche, dans un calme auguste, un nain majestueux, portant le sceptre d'or, la couronne royale et le manteau de pourpre. Et il reconnaît en ce nain le petit homme qu'il avait délivré de la prison de verre. Alors il se jette à ses pieds et lui dit en pleurant, « Ô mon bienfaiteur, mais qui êtes-vous? Êtes-vous donc de ceux qui m'ont pris abeille que j'aime ?»« Je suis le roi Locke, répondit le nain. J'ai gardé abeille près de moi pour lui enseigner les secrets des nains. Enfant, vous tombez dans mon royaume comme la grêle dans un verger en fleurs. Mais les nains, moins faibles que les hommes, ne s'irritent point comme eux. Je suis trop au-dessus de vous par l'intelligence pour ressentir quelque colère de vos actes, quels qu'ils puissent être. De toutes les supériorités que j'ai sur vous, il en est une que je garderai jalousement, c'est celle de la justice. Je vais faire venir Abeille et je lui demanderai si elle veut vous suivre. Je ferai cela non parce que vous le voulez, mais parce que je le dois. » Il se fit un grand silence, et Abeille parut en robe blanche, ses blonds cheveux épars. Sitôt qu'elle vit Georges, elle courut se jeter dans ses bras et le pressa de toutes ses forces la poitrine de fer du chevalier. Alors le roi Locke lui dit « Abeille, est-il vrai que voilà l'homme que vous voulez épouser ?»« Non, il est vrai, très vrai que le voilà, petit roi Locke, » répondit Abeille. « Voyez tous, petits hommes, comme je ris et comme je suis heureuse !» Et elle se mit à pleurer. Ses larmes coulaient sur la joue de Georges et c'étaient des larmes de bonheur. Elle y mêlait des éclats de rire et mille mots charmants qui n'avaient point de sens, pareils à ceux que bégayent les petits enfants. Elle ne songeait pas que la vue de son bonheur pouvait attrister le cœur du roi Locke. « Ma bien-aimée, lui dit Georges, je vous retrouve telle que je vous désirais, la plus belle et la meilleure des créatures. Vous m'aimez, grâce au ciel, vous m'aimez. Mais, abeille, n'aimez-vous pas aussi un peu le roi Locke qui m'a tiré de la prison de ver où les ondines me gardaient loin de vous ?» Abeille se tourna vers le roi Locke. « Petit roi Locke, tu as fait cela ? » s'écria-t-elle. « Tu m'aimais, tu as délivré celui que j'aimais et qui m'aimait ?» Elle n'en put dire davantage et tomba à genoux, la tête dans ses mains. Tous les petits hommes, témoins de cette scène, répandaient des larmes sur leurs arbalètes. Seul le roi Locke gardait un visage tranquille. Abeille, lui découvrant tant de grandeur et de bonté, se sentait pour lui l'amour d'une fille pour son père. Elle saisit la main de son amant et dit « Georges, je vous aime. Georges, Dieu sait combien je vous aime, mais comment quitter le roi Locke ?»« Holà, vous êtes tous deux mes prisonniers !» s'écria le roi Locke d'une voix terrible. Il avait pris une voix terrible en manière d'amusement et pour faire une bonne plaisanterie. Mais en réalité, il n'était point en colère. Francœur s'approcha de lui en mettant un genou en terre. « Sire, lui dit-il, qu'il plaise à votre majesté de me faire partager la captivité des maîtres que je sers. » Abeille, le reconnaissant, lui dit « Oh, c'est vous, mon bon Francœur. Oh, j'ai joie à vous revoir. Vous avez un bien vilain panache. Dites-moi, avez-vous fait de nouvelles chansons ?» Et le roi Locke les emmena tous les trois dîner. Chapitre 22, par lequel tout finit bien. Le lendemain, Abeille, Georges et Francœur revêtirent les somptueux vêtements que les nains leur avaient préparés, et ils se rendirent dans la salle des fêtes, où le roi Locke, en habit d'empereur, vint bientôt les rejoindre comme il l'avait promis. Il était suivi de ses officiers portant des armes et des fourrures d'une sauvage magnificence, et des casques sur lesquels s'agitaient des ailes de cygne. Les nains, accourus en foule, entraient par les fenêtres, les soupiraux et les cheminées, et se coulaient sous les banquettes. Le roi Locke monta sur une table de pierre, à une extrémité de laquelle étaient rangés des buires, des flambeaux, des hanapes et des coupes d'or fin, d'un travail merveilleux. Il fit signe à Abeille et à Georges d'approcher et dit « Abeille, une loi de la nation des nains veut qu'une étrangère reçue dans nos demeures soit libre au bout de 7 ans révolus. Vous avez passé 7 années au milieu de nous, Abeille, et je serais un mauvais citoyen et un roi coupable si je vous retenais davantage. Mais avant de vous laisser aller, je veux, n'ayant pu vous épouser, vous fiancer moi-même à celui que vous avez choisi. Je le fais avec joie, parce que je vous aime plus que moi-même et que ma peine. S'il m'en reste, est comme une petite ombre que votre bonheur efface. Abeille des Clarides, princesse des nains, donnez-moi votre main. Et vous, Georges de Blanchelande, Donnez-moi la vôtre. » Ayant mis la main de Georges dans celle d'Abeille, le roi Locke se tourna vers le peuple et dit d'une voix forte: « Petits hommes, mes enfants, vous êtes témoins que les deux qui sont là s'engagent l'un à l'autre à s'épouser sur la terre, qu'ils y retournent ensemble et y fassent ensemble fleurir le courage, la modestie et la fidélité, comme les bons jardiniers font éclore les roses, les œillets et les pivoines. » À ces mots, les nains poussèrent de grands cris, et ne sachant s'ils devaient se plaindre ou se réjouir, ils étaient agités de sentiments contraires. Le roi Locke se tourna de nouveau vers les fiancés, et leur montrant les buires, les hanapes, toute la belle orfèvrerie. « Voilà, leur dit-il, les présents des nains. Recevez-les, abeilles, ils vous rappelleront vos petits amis. Cela est offert par eux et non par moi. Vous saurez tout à l'heure ce que je veux vous donner. » Il y eut un long silence. Le roi Locke contempla avec une expression magnifique de tendresse Abeille, dont la belle tête radieuse s'inclinait, couronnée de roses, sur l'épaule du fiancé. Puis il reprit de la sorte: « Mes enfants, ce n'est pas assez de s'aimer beaucoup. Il faut encore se bien aimer. Un grand amour est bon, sans doute. Un bel amour est merveilleux. Que le vôtre ait autant de douceur que de force, que rien n'y manque, pas même l'indulgence, et qu'il s'y mêle un peu de pitié. Vous êtes jeune, beau et bon, mais vous êtes homme, et par cela même sujet à bien des misères. C'est pourquoi, s'il n'entre pas quelque pitié dans les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre, ces sentiments ne seront pas appropriés à toutes les circonstances de votre vie commune. Ils seront comme des habits de fête qui ne garantissent point du vent et de la pluie. On n'aime sûrement que ceux qu'on aime jusque dans leur faiblesse et leur pauvreté. Épargner, pardonner, consoler, voilà toute la science de l'amour. » Le roi Locke s'arrêta, saisi d'une émotion forte et douce. Puis il reprit: « Mes enfants, soyez heureux. Gardez votre bonheur, gardez le bien. » Pendant qu'il parlait, Pic, Tat, Bic, Boc, Tric et Po, pendu au manteau blanc d'abeille, couvrait de baisers les bras nus et les mains de la jeune fille. Et il la suppliait de ne les point quitter. Alors le roi Locke tira de sa ceinture une bague dont le chaton jetait des gerbes de lumière. C'était la bague magique qui avait ouvert la prison des ondines. Il la passa au doigt d'abeille et dit: « Abeille, recevez de ma main cet anneau qui vous permettra d'entrer à toute heure, vous et votre mari, dans le royaume des nains. Vous y serez reçus avec joie et aidés de toutes les manières. Enseignez en retour aux enfants que vous aurez à ne point mépriser les petits hommes innocents et laborieux qui vivent sous la terre. » Fin.